17h26, ben, perdre ses élections, c'est plate quand on est un citoyen. Perdre ses élections quand on est un député, ben, ça a un impact sur nos finances personnelles. Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc, qu'est-ce qui attend les députés qui ont perdu?
Premièrement, ça dépend d'où tu viens. Tu sais, par exemple, on est au fédéral. Si, par exemple, tu compares au provincial, si François Legault, Fitzgibbon et M. Dubé perdent leur emploi, je pense pas que leur avenir financier est un problème. Mais si tu étais, par exemple, un député néo-démocrate ou libéral ou bloc qui était prof au secondaire à 60 000 puis tu étais tombé à 185 800 par année, plus certaines allocations, c'est sûr que ça peut te faire mal. Je te donne un exemple. 185 800, c'est la rémunération de base. Mais si tu es ministre, tu ajoutes un autre 88 700, un 2000 piastres d'allocation de voiture. Si tu as un rôle de whip de l'opposition, tu as un 33 000, un leader en chambre de 18 100 piastres. Donc, tu comprends, il y a comme des allocations, des bonus et tout ça. Et la pire chose, Patrick, qui peut arriver à un député, c'est un député qui aurait été élu en 2015. Parce qu'il aurait été élu le 19 octobre 2015. Et tu sais que pour avoir les prestations de rente à vie à la retraite, faut que tu aies été au moins 6 ans au fédéral député.
Donc, ils l'auront raté d'un mois.
Ils l'ont raté d'un mois.
Mais Pierre-Yves, écoute, il y a une analyse là, au Canada anglais là, d'un chroniqueur qui disait s'il y a des problèmes avec son leadership, là, chez les militants, chez les anciens députés, etc., il y a beaucoup de gens qui vont y reprocher ça au Parti libéral de ne pas avoir attendu un mois de plus avant de déclencher.
Bien, c'est sûr. Puis on va dire qu'il n'y a pas eu tant de changements de garde que ça. Hein? Ça n'a pas été une élection vire-capot. Mais il y a un tabou, c'est la déchéance financière qui peut arriver après que tu sois été député. Parce que tu as eu, disons, des années à 180 000, 185 000 plus les autres fonctions. Et puis là, tu reviens sur le plancher des vaches, puis tu cherches un emploi. Puis là, dépendant de quelle allégeance t'étais, dépendant de ce que tu faisais, puis dépendant de ton expertise, la chute peut être vertigineuse. Puis ton rythme de vie doit baisser pour la plupart des gens. Mais donc, il y a un député là, qui a 78 ans qui s'est encore fait réélire. Moi, je dirais comme CPA, je dis « qu'est-ce que vous faites? » Parce que là, vous perdez votre rente de retraite.
Je pense que M. Plamondon aime beaucoup être député.
Oui, Sorel. Aime beaucoup être député parce qu'il perd une retraite. Et moi, tu sais comment je suis optimal financièrement. Je ne comprends pas que tu laisses aller ta retraite pour continuer à servir quand tu es rendu à un âge plus vénérable, celui de mon grand-père à sa mort. Mais ça, c'est un choix bien personnel. Mais quand même, quand tu y penses, pourquoi on n'attire pas facilement en politique des gens qui ont une très grande carrière? Ben, c'est parce que si tu vas en politique, tu as une très, très grande carrière. C'est vrai que tu peux y aller parce que ça ne te dérange plus l'argent. Mais tu sais, l'espèce de spot intéressant, là, entre 38 puis 55 ans, de gens qui ont une bonne carrière, qui n'ont pas une grande indépendance financière, mais qui iraient en politique, mais qui se disent « aïe, aïe, je laisse une compagnie derrière, et je laisse quelque chose, je suis pas prêt à perdre tout ça pour aller au service public. » Puis tu sais, quand tu es prof, ce qui est merveilleux, Patrick, là, t'es prof, mettons, de biologie au secondaire. Puis là, tu décides de te présenter aux élections, puis t'as ta permanence. Ben, tu t'en vas te présenter aux élections, tu gagnes. Quand tu perds ta job, ton poste est assuré en revenant.
Ah oui?
Ah oui, oui. Il y a des gens qui ont été à la Chambre des communes, puis quand ils sont venus, ils sont retournés au cégep, ils sont retournés profs, puis ils ont bien leur job.
Puis est-ce qu'il y a une limite de temps?
Alors, je connais pas les règles exactes. Mais il y en a qui sont restés 10 ans, puis qui sont venus. Tu peux revenir. Quand tu vas pour le service public, ta convention collective prévoit ça.
Ça, généralement, il faut être syndiqué pour ça.
J'imagine, évidemment. Je pense pas que... disons que, imagines-tu, tu es CPA dans une grande firme comptable mondiale. Tu dis « Ah, je m'en vais député, j'attends mon poste quand je vais revenir. » Ça se peut que tu sois plus tout à fait à jour.
T'sais. OK, parle-nous de l'envers du compte conjoint là, en finances personnelles.
Parce que là, Patrick, faut que je t'en parle. Le compte conjoint, c'est tout un enjeu. Il y a beaucoup de gens qui croient au Québec qu'avoir un compte conjoint, c'est un engagement qui a du sens. Alors que c'est un mécanisme de partage des dépenses. Gardez, s'il vous plaît, puis là, je parle au cheap, là, gardez chacun votre compte de banque. Puis je vous explique pourquoi. Un, si vous avez juste un compte conjoint, que vos payes se déposent dedans, puis qu'il y a un décès soudain, bien, c'est bien de valeur, le compte est gelé. Fait que c'est pas pratique. Deuxièmement, le compte conjoint, ne prenez pas la chance de laisser trop d'argent là-dedans, parce que les deux peuvent piger dedans. Donc, s'il y a dispute, chicane, obstination, désaccord, vous pouvez vous faire vider votre compte conjoint super rapidement avant même que vous ayez le temps de réagir.
Et il n'y aura pas de recours.
Il Il y a un recours, mais c'est devant la cour.
Okay.
Puis là, tu vas aller te battre, comme par exemple, si ton conjoint va piger, par exemple. Je te donne un exemple. Tu mets une marge de crédit qui est liée au compte conjoint. Hein, une marge de crédit, peu importe comment elle est. Puis qu'il y a 15, 20, 30 000 de possibilités dans la marge de crédit. Bien, si tu veux poursuivre ton ex-conjoint qui est parti avec une portion de la marge de crédit, bien, en bas de 15 000, c'est une petite créance. En bas de 85 000, tu peux aller à la Chambre civile de la Cour du Québec. Mm. Puis si tu t'es fait vider de 85 000 et plus, là, tu vas à la Cour supérieure. Mais c'est de te dire à quel point, un, c'est important. Et l'autre point, c'est de dire, il y a, oui, une option de partage de dépenses, mais ce n'est pas un engagement. Puis prends par exemple... Je sais pas, moi, il y a ton conjoint vire sur le top, commence à aller jouer au casino avec cet argent-là. Ou bien il y a un problème, puis là, des créanciers arrivent, puis là, ils payent des créanciers avec. Je dis conjoint, ça peut être conjointe. Donc, il faut vraiment se protéger comme individu et garder son indépendance. Et quand je vois des couples me dire « J'ai un compte conjoint, donc je m'aime et j'aime mon conjoint », je trouve que c'est un peu limite. Patrick, avoir un compte conjoint, c'est pas ce qui s'appelle conjoint, que c'est une implication. Donc, si vous en voulez un, prenez ce que ça coûte par mois, mettez le strict minimum dedans pour payer l'hypothèque et tout ça, mais assurez-vous que votre conjointe dépose l'argent, puis deux, que les comptes sont payés. Ça, c'est autre affaire. Si, disons, moi, j'étais avec quelqu'un, puis la personne me donne de l'argent, puis moi, je gère ça tous les mois, mais finalement, je décide de ne pas payer des assurances, d'annuler le paiement hypothécaire. Mais ça se peut que tu te réveilles au bout de 3-4 mois, puis j'ai volé ma conjointe ou mon conjoint sans que cette personne-là s'en rende compte. Puis c'est pas parce que votre conjoint ou votre conjointe ne vous aime pas qu'ils font ça. C'est parce que des fois, ils partent complètement sur une dérape, tu comprends?
Connaissant ta conjointe, Pierre-Yves, il faudrait que tu cours vite.
Il faudrait que je cours vite? Oui, mais l'autre affaire, c'est que moi, Patrick, je suis dans deux habitations séparées. Je n'ai pas de conjointe de fait. Je n'ai pas de compte conjoint. Je suis accoquiné avec
quelqu'un.
Vous n'avez
pas un folio partagé?
Qu'est-ce qu'on a comme partagé? On a partagé, je pense, des poulets.
On
est en train
de changer le thème de la chronique. Hein,
ouais,
on s'en va vers la revue des revues.
La revue des potins. Mais non, Patrick, moi, je n'ai pas de conjointe de fait. Je suis juste seul avec mes enfants chez nous, moi, là.
Ah.
Tu comprends-tu? Je n'ai pas de fusion financière. Là, je révèle de quoi?
Ben oui.
Je n'ai pas de compte conjoint. Je n'ai rien parce qu'on a chacun notre vie. Tu comprends? Chacun notre habitation. Puis tu sais, Patrick, le droit de la famille, puis tout ça, est très années 50 là-dessus. Parce que moi, je pourrais me définir comme un problème de plein de familles au Québec. C'est-à-dire qu'on a chacun notre vie, chacun notre adresse, on vit notre vie, on a nos enfants à gérer, il y a des ex, il y a plein de patentes là-dedans. Puis le gouvernement, non mais, pour vrai...
Ta blonde, elle veut pas se marier?
Mais pourquoi elle voudrait se marier?
Ben, je sais pas, parce que par romantisme...
Elle a pas le bon gars.
Non, excusez-moi, mais Catherine, est-ce que t'es mariée?
Non, mais moi, je veux me marier.
Pour vrai? Pourquoi?
Ben, oui. Ben parce que. Par romantisme, parce que j'aime mon chum. Parce que je veux être la femme dans sa vie.
Ouais, mais t'es déjà la femme dans sa vie, puis il sait que tu l'aimes.
Ah ouais,
non, moi, un bon argument. Vas-y, je t'écoute.
Je l'aime.
Ben oui, mais tu peux l'aimer tous les jours.
Faites-vous un gros party, Kat. Faites-vous un gros party.
Puis arrive l'amour.
Vous aimez devant tout le monde.
L'amour, c'est pas un argument. C'est combien ça coûte. C'est toujours
non, c'est pas ça. C'est pour
oui,
dire.
C'est ça.
Le contrat légal n'a plus de valeur morale. C'est un contrat légal. Si tu te maries avec ton chum, c'est parce que tu veux lui donner une portion de ton fonds de pension.
Absolument. Puis lui aussi, c'est la même chose. Il y a un échange là-dedans.
Il y a un échange légal.
Puis arrive, il y a plus que ça. Arrête. Là.
Bon. MC, je vais juste t'expliquer une patate.
Non.
Prévenance à
substance. En 15
non.
secondes.
On achètera ton
en
livre,
comptabilité, il y a un principe de prévenance à substance économique sur la forme juridique.
Ah.
Et un mariage, l'amour, c'est ce que tu fais chaque jour avec la personne. Bon. La vie que tu partages, ce n'est pas un papier que tu signes qui se déchire sur le coin d'une table, comme disait Brian Mulroney à John Turner sur le libre-échange dans les années 80.
Pauvre blonde.
Okay. Pierre-Yves, je t'arrête, mais c'est quoi? Demain, ta chronique, c'est sur le mariage. Ouais. C'est une bonne idée.
OK. Financier okay? ou...
Ben non, l'envie.
Tu fais la chronique financière, Pierre-Yves.
D'accord.
Ça va être langue financière.
Essaye d'élargir tes horizons.
J'aurai peut-être des points de vue là-dessus.
Merci. Salut.
7h35.